إلا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب donc inshallah ta'ala un nouveau cours. C'est dommage par rapport, je pensais à l'emploi du temps, qu'il n'y a pas assez de cours de fiqh. قدر الله ما شاء فعل. Un cours par semaine, c'est léger. Mais comme le disent les savants, comme le disent les grands savants, il faut donner un temps de repos pour les étudiants. C'est important. Alors après, ça varie selon les savants. Vous avez des savants qui disent un jour, d'autres qui disent deux, d'autres qui disent trois. Donc nous, on a essayé de le faire le maximum, de donner le week-end, vendredi et samedi. Donc pas le week-end des chrétiens, le week-end des musulmans. Non. Et Inch'Allah ta'ala, pour le moment, on va se contenter de ça. On verra l'évolution des choses par la suite. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un cours de plus de fiqh parce que une fois par semaine, c'est ça le fait, mais c'est léger. C'est léger. طيب بسم الله الرحمن الرحيم أين وقفنا في الدرس السابق أين وقفنا والله المستعان طيب مصدر التشريع في عصر النبوة طيب donc alors, petite question dans le fiqh, hein. Petite question pour vous. Masadir al-tashri'a. Masadir al-tashri'a. Les sources de la législation. Qui peut me dire quelles sont les sources dans la législation? On se base sur quoi dans MashaAllah, Qur'an wa Sunnah, Ahsant. MashaAllah, c'est le plus rapide qui est. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa barakatuh, Kitab, wa Sunnah, Ahsant. Très, très bien, très, très bien. Tamam. MashaAllah, Ilyas, Mohamed et Papa Ahsantoum. Les trois réponses sont bonnes. Après, ça va dépendre de... Mais c'est vrai que la question, elle n'était pas ciblée. Donc, celui qui a compris que c'était « Masadir al-tashri' ghayr mukhtalifa »« Ghayr mukhtalifa » Eh bien, c'est la bonne réponse. Et celui qui a compris, comme on l'a dit précédemment, juste les sources, uniquement les sources, « Kitab wa Sunnah », c'est bon aussi. C'est moi qui n'ai pas été assez précis dans la question, mais c'était un peu fait exprès. Tamam. Kalamullah. المعجزة الذي أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كل بتواتر متعدد بتلاوته مبدو بسورة الفاتحة ومختم بسورة الناس. تمام تسمية القرآن بالمصحف. وقال السيوطي رحمه الله نعم on a parlé de ça. Donc dans le dernier cours on a parlé de on a parlé du fait de il y avait une question d'un frère qui avait posé la question on peut jurer par le Coran, ça c'est connu, mais pourquoi on ne peut pas jurer par le Mushaf? Donc vous vous souvenez bien, dans le cours précédent, on a dit que les compagnons, ils avaient donné un autre nom également au Coran qui était le Mushaf. Et on sait que le Mushaf, il est mentionné, c'est un terme, Suhuf al-Ula, Suhuf Ibrahim wa Moussa, qui est mentionné dans le Coran pour dire que c'est un livre, des feuilles, un livre avec des feuilles, etc. Le frère avait donc posé la question et j'ai donc vérifié. Il y a des savants qui disent, Afouane, des savants qui disent que on peut jurer par le Coran parce que le Coran c'est Kalamullah, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah au Ta'ala, c'est un attribut d'Allah au Ta'ala. Et on peut donc jurer par les attributs d'Allah au Ta'ala. Il est permis de jurer par les attributs d'Allah au Ta'ala. Donc, ceux qui ne connaissent pas les attributs d'Allah, etc., ne vous inquiétez pas, on va faire ça dans le Tawhid, dans la Aqidah, on va parler des attributs d'Allah. Comme on est dans un contexte de débutant, il y a sûrement des gens qui n'ont jamais étudié les noms et attributs d'Allah. Donc, concernant le Qur'an, c'est Kalamullah. C'est, comme on l'a vu dans la définition du Qur'an, c'est la parole d'Allah au Ta'ala. Donc, c'est un attribut, la parole d'Allah, l'attribut d'Allah par lequel on peut jurer. Donc, c'est autorisé de jurer par le Coran. Tandis que le mashaf, ce n'est pas un attribut d'Allah. Le mashaf, ça veut dire le livre avec des feuilles. C'est une image que je vous donne à peu près. Il y a un livre avec des feuilles comme ça. Tamam. Donc, voilà pourquoi on ne jure pas, Wallahu A'lam, par de ce que j'ai vu des savants. Je ne sais pas s'il y a divergence, s'il y a d'autres savants. Disent que si on peut ou pas, Wallah Alem, moi j'ai vu que des savants disent que non, on ne jure pas par le mashaf pour cette raison bien précise. Donc, comme vous venez si bien de nous le mentionner, la deuxième source, c'est la sunna. Al-masdar al-thani, al-sunnatu al-nabawiyyati. Tamam? Donc là, on va rentrer concernant le fiqh. Ça y est, on a parlé du Qur'an. Maintenant, on va parler de la sunna. Et là, inshallah ta'ala, on va stafid, on va apprendre des choses concernant la sunna du prophète. Et c'est très important. Concernant cette source, cette deuxième source, on va savoir, on va profiter. Qu'est-ce que c'est cette source? En quoi elle consiste, les profits de cette source, l'importance de cette source, elle traite de quoi cette source, etc. Tamam? La sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'on peut également traduire en français la tradition prophétique. As-sunnatu fil lugha, la sunna dans la langue arabe. Alors, je sais qu'on l'a déjà vu, je ne vais pas poser la question parce que si on l'a vu, on l'a vu rapidement. Je sais qu'on l'a vu, mais on l'a vu rapidement, donc on ne va pas poser la question pour ne pas mettre les élèves dans l'embarras, bien qu'il doit y avoir des élèves sûrement qui connaissent la réponse. La sunna dans la langue arabe, c'est at-tariqa. At-tariqa, c'est le chemin. La sunna dans la langue arabe, ça veut dire le chemin. Alors, comme on l'a dit précédemment à plusieurs reprises dans de différents cours, différentes matières, bon, c'est bien de le répéter quand il y a à peu près tout le monde. Même s'il n'y a pas tout le monde en direct, on sait que les autres, Inch'Allah Ta'ala, écoutent les cours indirectement. Donc, tout le monde l'écoutera, Inch'Allah Ta'ala. C'est un cours ici où normalement, il y a tout le monde qui va l'écouter. Pas comme certains cours où il n'y a pas tout le monde. Donc, comme on avait dit dans plusieurs cours, les définitions en arabe, en français, c'est très important. C'est très important. On avait expliqué que si des gens veulent détourner un sens, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans la terminologie, que ce soit dans la législation, si des gens mal intentionnés veulent vous détourner, ils vont jouer sur la langue arabe. Et les innovateurs, ils sont forts dans ça. Ils vont jouer, et même les associateurs, les polythéistes, hein, ils vont jouer sur la langue arabe. Ils vont jouer également sur la législation, les définitions. Donc, si vous, vous connaissez les définitions chez les gens de la sunna, alors là, vous êtes bien, inshallah, au ta'ala. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, par exemple, la sunna, ici, chez les gens de la sunna, dans la langue arabe, ça veut dire tariqa, al-tariqa. Le chemin, la voie. Alors, si quelqu'un vient et vous dit, ça veut dire la couleur bleue, par exemple, ou ça veut dire innover, un exemple, ça irait plus dans ce sens, hein, ils aimeraient bien dire ça. Sunna, ça veut dire innover. Eh bien, vous lui direz, Afwan, toutes mes excuses, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vous êtes hors contexte. Vous êtes hors contexte. Dans la langue arabe, chez les savants de la langue arabe, ça veut dire tariqa. Ça ne veut pas dire innover, ça ne veut pas dire bid'a, innovation. Tamam? سواء كانت الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. Alors on l'a expliqué précédemment, déjà on a déjà dit ça. La sunna dans la langue arabe, c'est le chemin. Que ce chemin, il soit mahmoud, c'est-à-dire loué, ou qu'il soit mazmoum, c'est-à-dire blâmable, blâmé. Alors pourquoi? Alors je vous explique, je vous donne une faïda. Les définitions et les termes dans la langue arabe, c'est vaste. C'est plus général, c'est plus vaste que la définition dans la législation. La définition dans la législation, elle englobe un sens précis. Mais dans la langue arabe, c'est général, ça comprend tout. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez mieux le sens dans la langue arabe, le fait que le sens dans la langue arabe, il est plus vaste. Plus vaste, il englobe beaucoup d'autres choses par rapport au sens dans la législation. Par exemple, vous prenez le terme mécréance. Vous prenez le terme mécréance. Dans la langue arabe, il est plus vaste. Dans la langue arabe, ça veut dire, par exemple, couvrir. La mécréance, ça veut dire couvrir quelque chose. Ça veut dire les ténèbres de la nuit, volumat, les ténèbres. Ça veut dire, yani, c'est le sens plus élargi. C'est un sens qui est plus élargi. Naham. Et si vous prenez son sens dans la législation, un des sens de la mécréance, c'est le contraire de la foi. Là, c'est précis. La mécréance, c'est le contraire de la foi. Riddul iman. On est d'accord. Donc ici, c'est pour ça que dans la langue arabe, la sunna, donc vous constaterez que je vous fais un petit détail, un bon petit détail. C'est pas le détail que j'ai ici, hein. Mais comme vous le savez, j'aime bien expliquer les choses pour que les gens comprennent bien. Et en apportant des fawaïd en plus, comme ça, quand ils seront dans un autre contexte, demain on va encore citer des définitions, vous saurez que si on donne une définition dans l'arabe, qu'il y a plusieurs synonymes, on parle de plusieurs choses dans la langue arabe, c'est plus long que dans la législation, et ben vous saurez pourquoi. C'est parce que le terme, le sens dans la langue arabe, il est plus vaste. Alors plus vaste ne veut pas dire que les portes sont ouvertes à toute pensée ou toute chose de d'innovateur ou d'associateur ou de mécréant ou de athée ou non, ça reste toujours quand même si c'est vaste, ça reste toujours dans un contexte. Vous prenez le dictionnaire comment il s'appelle, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, Al-Muhit, Naham, ou vous prenez n'importe quel dictionnaire muhim dans la langue arabe. Et vous regardez un sens en arabe, vous verrez qu'il a plusieurs manières de s'expliquer, de plusieurs synonymes, plusieurs sens, plusieurs terminologies. Et la langue arabe, c'est comme ça. Donc voilà. طيب. Donc la sunna, c'est le chemin, qu'il soit louable ou blâmable. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué ce sens élargi. Parce que dans la langue arabe, lorsqu'on parle d'un chemin, ça peut être n'importe quel chemin. Vous voyez pourquoi dans la langue arabe c'est plus vaste? Parce que dans la langue arabe, si on parle d'un chemin, ça peut être le chemin qui va tout droit, le chemin qui va à gauche, le chemin qui va à droite, le bon chemin, le mauvais chemin, c'est ça dans la langue arabe, le chemin. Mais dans la législation, la sunna, c'est plus précis. C'est pas tous les chemins. Il y a un seul chemin. Il y a une seule sunna du prophète. Alors normalement, avec ce bon détail, tout le monde aura compris, inshallah. وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً. Alors en parlant de la sunna, on nous mentionne ici, pour nous ramener une preuve que ça existe dans la langue arabe, le terme sunna, on nous ramène hein, une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette parole, elle est aussi bien profitable dans son contexte, c'est-à-dire que le hadith, il est aussi bien profitable dans le fait, dans l'istidlal, l'argumentation ici pour dire que la sunna existe dans la langue arabe, mais il est également profitable le hadith en lui-même. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que celui, donc tout le monde sait que si tu fais un bien, ça tout le monde normalement sait, on va dire le hadith, hein. Mais le sens du hadith, c'est que si tu fais un bien, tu indiques un bien aux autres, les autres, quand ils vont le pratiquer, toi, tu auras les hasanettes de ce qu'ils sont en train de pratiquer. Si tu, par exemple, si tu finances un étudiant en sciences, tu lui dis, vas-y, pars étudier, moi, je te paye tout, c'est un exemple. Hein. Moi, je te finance tout. Et il y a des gens qui le font, va en Égypte, va où tu veux, au Yémen. Nous, à l'époque, c'était comme ça. Hein. Je te finance tout. Va juste étudier. Eh bien, celui qui a financé, il aura les hasanettes du talab al-ilm qui est en train d'étudier. Alors ça, les gens, en général, ils le savent. Indiquer un bien, tu as les hasanettes de celui qui le met en pratique. C'est ça le hadith. Mais il y a la deuxième partie du hadith qui dit, mais celui qui indique un mal, il aura les péchés de tous ceux qui vont faire ce mal. Alors imaginez-vous quelqu'un qui fait une innovation et tous les gens qui ont suivi derrière, et ça, beaucoup de gens n'ont pas connaissance que même quand tu fais un mal, tu indiques un mal, il faut tout faire pour pas être vaut mieux être la cause d'un bien que la cause d'un mal. Vaut mieux être la cause de la guidée d'une personne, comme le dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vaut mieux être la yahdihi Allahu bika rajulan wahidan, qu'une personne soit guidée par ta cause, un seul homme. C'est mieux que tous les biens de ce bas monde. Mais si, par ta cause, une personne, elle prend un autre chemin, elle est égarée ou tu l'as fait fuir de l'islam ou quoi, alors ça, c'est Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tamam. Donc, le hadith qui nous est mentionné ici, nous allons le citer. Wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi cela, la parole du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, celui donc qui indique une bonne chose, une bonne tradition, aura la même récompense. Et il aura la récompense de ceux qui œuvreront de cette chose-là jusqu'au jour de la résurrection. Yawmul Qiyama. Wa man sanna sunnatan sayyi'a, et celui qui propage une tradition mauvaise, il aura les mauvaises actions jusqu'au jour de la résurrection. Voyez. Maintenant, nous allons donner, mentionner le sens de la sunna dans la législation. Le sens de la sunna, istirahan. Donc, ce n'est pas dans la législation, c'est plutôt dans la terminologie, istirahan. On a déjà expliqué, mashallah, barakallahu fiikum, on a déjà expliqué que tantôt les savants donnaient le sens légiféré, tantôt les savants donnaient le sens dans la terminologie, dans l'istirah. إما أن يكون المعنى استراحة إما أن يكون شرعا. Tantôt le sens peut être mentionné dans la terminologie, tantôt il peut être mentionné dans la législation. Et la différence entre les deux, c'est que lorsque c'est mentionné dans la législation, c'est qu'il y a un texte. On trouve ça dans le Kitab wa Sunna. Alors, lorsque c'est istirah, lorsque c'est les, on dit la définition dans la terminologie, dans l'istirah, ça veut dire que c'est les savants qui ont mentionné cela, bien entendu, en parcourant le Qur'an et la Sunna. Je vais vous donner un exemple. Le terme « aqida », croyance, ce terme, il n'est pratiquement pas mentionné à l'époque des salafs, pratiquement inexistant. Donc, ce sont les savants qui ont suivi, qui ont instauré ce terme, aqida, al-aqida. Mais en parcourant le kitab wa sunna, ça veut dire qu'il est en accord, en conformité avec le kitab wa sunna. Donc, comme ils n'ont pas tiré directement ce terme, par exemple le mot aqida dans le Coran ou quelque chose comme ça, alors on ne dit pas définition dans la législation. On dira définition dans la terminologie. C'est des terminologies que les savants ont apportées. Wallahu a'lam, il y a d'autres différences, mais ça, c'est celle que nous mentionnons aujourd'hui. C'est bien de connaître ça. Ensuite, on a mentionné le hadith, la sunna istirahan. Donc, la sunna dans la terminologie. Yakhtalif ma'na sunna fil istiraha ahlu shara hisab ikhtilaf fununihim wa aghradihim. Alors regardez, et ça c'est intéressant pour vous. C'est intéressant pour tout le monde, mais c'est encore plus intéressant pour ceux qui étudient plusieurs matières. Alors, mon stylo que j'aime bien, il est disparu, il est plus là. C'est pas grave. Alors. Donc, on nous dit ici la définition de la sunna dans la terminologie. Le sens dans la terminologie chez les gens de la législation, il est en fonction, donc la définition de la sunna dans la terminologie. Chez les gens de la législation, ça veut dire chez les savants selon la matière. Eh bien, il sera, selon leur matière, hein, la définition de la sunna, elle sera différente d'une matière à une autre. C'est-à-dire, elle sera différente chez les gens du hadith par rapport aux gens du fiqh. Elle sera différente des gens du fiqh par rapport au hadith et elle sera également différente par rapport à l'usuliyin. Usuliyin, ce sont les savants de usul fiqh. Donc, vous avez usul fiqh comme matière. Vous avez le fiqh comme matière et vous avez le hadith. Dans ces trois matières, il y a une définition différente de la sunna. D'accord ? Alors, ici, on va nous donner, donc ceux qui font du usul fiqh, ils ne seront pas étonnés si dans le fiqh, on leur a donné une définition. Et dans usul fiqh, ils auront une autre définition. Mais attention, on a déjà expliqué que les définitions, c'est pas, il n'y a pas une grande différence. Des fois, il y a un mot, il y a une phrase, un ou deux mots qu'on ne va pas retrouver dans usul fiqh et qu'on va retrouver dans le fiqh. Et je vais vous donner justement un exemple auquel je vous avais fait signe dans un cours. Et vous allez voir l'exemple. Pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui ont de la mémoire et qui se souviennent, et puis également pour ceux qui ont participé à ce cours, parce que je ne me souviens plus c'est dans quel cours, mais il me semble que c'est dans le cours du hadith et tout le monde n'assiste pas au cours du hadith. Mais on va quand même donner la faïda. Donc, la première chose, chez les muhaddithin, chez les savants du hadith, la définition de la sunna. Chez les gens du hadith, la définition de la sunna. C'est tout la sunna, kulli ma uthira 'anil nabi, c'est tout ce qui a été attribué au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, que ce soit une parole, que ce soit une action, que ce soit quelque chose qu'il est reconnu, accepté, agréé. Je pense que c'est clair, là, jusqu'ici. Hein, une parole qu'il a dit, le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est la sunna. Un acte qu'il a fait, le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est la sunna. Et acceptation, agrément, donc, c'est, il y a eu plusieurs situations, hein, où des gens ont fait des choses, ont dit des choses, et le prophète, il a approuvé. Il n'a pas dit non, c'est haram ou quoi que ce soit. C'est ça. Hein. On appelle ça taqrir en arabe. Taqrir. Donc, on va le dire en arabe. Kulli ma udhifa 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-qawli aw fi'li aw taqrir. Min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Aw sifa khalqiyya aw khuluqiyya. Alors ça, justement, c'est ce que dans un des cours, il n'y avait pas ce rajout, parce qu'à la fin, donc, c'est ce que a approuvé le prophète, sallallahu alayhi, après il nous rajoute, ou alors une caractéristique du prophète, qu'elle soit physique ou dans son comportement. Et ça, une fois, on avait donné la définition de la sunna et on n'avait pas donné cette fin, et je vous avais dit, les savants, ils rajoutent ça à la fin. Et je vous avais rajouté ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon. Donc ça, c'est la définition chez les gens du hadith. Je vais répéter. La définition de la sunna chez les gens du hadith. Mais la définition dans la terminologie. Hein. C'est tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit une parole, que ce soit une action, que ce soit quelque chose qu'il ait approuvé, agréé, hein, ou que ce soit une caractéristique physique, ou alors que ce soit khuluqiyya, une caractéristique dans le comportement. وَالسُنَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفَ لِحَدِيثِ النَّبَوِي عَلِي صَلَاتُ وَسَلَمْ. On nous dit, la sunna, cette définition de la sunna, elle a son sens, il est synonyme du hadith al-Nabawi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais répéter et ensuite je vais vous expliquer pourquoi. On nous dit ici, cette définition qu'on vient de donner de la sunna, son sens, il est synonyme de la définition du hadith prophétique. Tout simplement parce que la définition du hadith prophétique, c'est pratiquement la même chose que cette définition qu'on vient de dire. Parmi les deux sources légiférées, il y a une relation, retenez bien ça, même si vous le savez déjà, il y a une relation entre le Qur'an, le noble Qur'an et la sunna prophétique. Il y a une relation entre le Qur'an et la sunna prophétique. Tamam ? Donc, أن تأتي سنة موافقة للقرآن الكريم. C'est que la sunna, donc la relation, hein, la relation ou les relations, c'est que la sunna, elle est en conformité avec le Coran. Première chose. Elle vient confirmer ce qui a été rapporté, approuvé, hein, reconnu dans le Coran, le noble Coran. À propos des jugements, al-ahkam, les jugements. Voyez, exemple à cela. On va nous donner un exemple. Toujours, il faut des exemples pour que les étudiants puissent mieux toujours comprendre. Ça va? C'est très important. Voyez. On nous dit, Coran al-Karim, al-Ahkam, mislu zalik, mithalu zalik. Qawlullah ta'ala, wankihu al-ayma'a minkum, al-ayama minkum, was-salihina min ibadikum. Donc, Surat al-Nur, verset 32. Wallah ta'ala nous dit, يوافقهم قول النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, on va revenir au verset après. On nous dit à la suite. On nous dit à la suite. Donc, c'est Surat al-Nur, verset 32, ce verset. On va y revenir. Ensuite, on nous dit que ce verset, il est exactement en conformité avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on nous donne dans le contexte du mariage, dans le contexte des femmes à épouser. On a exactement le même sens dans un hadith. Ça, c'est pour dire, donner les preuves ici, que la sunna, elle est en conformité avec le Qur'an. Barakallahu fikum. Pour le verset, le chat il s'est sauvé. نعم وانكحوا اليتامى منكم والصالحين من عبادكم et épousez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves ou mes femmes s'ils sont besogneux jusqu'à la fin du verset. Donc on a dans le hadith du prophète, on a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit ya ma'sharu shabab ou ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Oh vous les jeunes, celui parmi vous qui peut se marier, qu'il le fasse. Cela est mieux pour concernant le fait de baisser le regard. Wa ahsan lil farj, et pour préserver également, pour préserver ce que vous savez, également c'est mieux. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wadiya. Et pour celui qui ne peut pas, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens de se marier alors qu'il jeûne. Donc on voit bien, ça c'est la preuve que ce hadith, il est en conformité avec le Coran. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas uniquement que ça. Donc deuxième chose concernant la sunna, le rapport, la relation qu'a la sunna avec le Coran. On a mentionné la première. C'est que la sunna se conforme au Coran. Deuxième relation. أن تأتي السنة مبينا ما جاء في القرآن الكريم. C'est que la sunna, elle vient éclaircir ce qui est venu dans le noble Coran. La sunna, elle vient en éclaircissement à ce qui est venu dans le noble Coran. Allah Ta'ala nous dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sourate An-Nahl, verset 44. Les Nahl, c'est les abeilles. 44. Donc, le verset, la sunna, elle vient éclaircir le Coran. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Et nous avons descendu sur toi le rappel pour l'éclaircir aux gens. Manuzila ilayhim, pour éclaircir aux gens ce qui leur est descendu sur eux. Voilà, allahum yatafakkarun, et peut-être ils réfléchiront. Traduction rapprochée du sens, je pense que ça va arriver, mashallah, ben c'est arrivé plus vite que Allahi barak, mashallah. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Barakallahu fikum. Mashallah. طيب ومن بيانها للقرآن أن تأتي مفصلة Mufassila. Donc, parmi les éclaircissements de la sunna par rapport au Qur'an, c'est que la sunna, elle vient détailler le Qur'an. D'accord ? La sunna, elle va venir détailler le Qur'an. On sait que le Qur'an, il vient comme ça en général. Et la sunna, elle vient avec le détail. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mentionnées au sens général dans le Qur'an et la sunna va venir apporter le sens spécifique et vice-versa, etc. Elle vient éclaircir les problématiques que l'on pourrait rencontrer concernant le Qur'an dans la compréhension, dans l'explication, dans l'éclaircissement, etc. Voilà le rôle de la sunna. Exemple, on nous donne un exemple, encore un autre exemple. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Alors toujours, traduction rapprochée, verset que vous devez tous connaître, hein, et certes la prière a été prescrite à une heure précise. Hein, pour les croyants, inna salata kanat ala al-mu'minina, pour les croyants, hein, la salat pour les croyants a été prescrite à une heure, à des heures particulières précises. بينته الأحاديث التي ورد أو ورد فيها بيان الأوقات أوقات الصلاة حيث فصلت ذلك أوضح. تمام. On nous dit les hadiths ils sont parvenus pour nous éclaircir le détail. Le détail, regardez, le Coran dans ce verset, il vient dans un sens général. Et la prière est descendue sur les croyants, idna salat, et plutôt la prière est prescrite pour les croyants à des heures précises, mais c'est où les heures précises? Comment on va savoir c'est à quelle heure? Déjà, quelle salat et à quelle heure? Eh bien, c'est la sunna qui vient avec le détail de ça. Tamam. Wa kadha. قول الله تعالى في الآية في آية المواريث pardon. Également on nous donne un autre exemple concernant les versets de l'héritage. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها عفوا نصف عفوا. طيب donc nous avons également ici un verset pour nous donner toujours la preuve que la sunna vient expliquer le Coran. Et celui-ci, ce verset, se trouve dans Sourate An-Nisa, Sourate An-Nisa, Sourate les femmes, verset 11. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils, une part équivalente à celle des deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, alors à elles alors la moitié. Etc., etc., ça va jusqu'au, le verset, il est plus long que ça. C'est un long verset. Tamam. Donc, on nous dit, Sourate An-Nisa, verset 11, ce verset, il est général. Am. Ce verset, il est général, on n'a pas le détail. Khassasathu as-sunnah. Mashallah barakallahu fikum. Ce verset, c'est la sunna qui est venue donner le détail. Vous voyez bien que ce verset, il est général, et la sunna, elle est venue détailler ce verset. Également, on nous dit ici plus de détails concernant l'héritage. On nous donne plus de détails, on nous dit la sunna, elle est même venue expliquer dans un hadith que l'assassin il n'hérite pas, que le musulman n'hérite pas du mécréant et que le mécréant n'hérite pas du musulman. La yarithu al-muslim al-kafir wa la yarithu al-kafir al-muslim. Donc la sunna, elle vient avec le détail concernant les jugements, concernant les gens. On nous dit également qu'il est obligatoire de suivre la sunna au même titre que le Coran, comme le Coran. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce avec quoi vient, ou ce que vous apporte le messager, alayhi salatu wassalam, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le, interdisez-vous-le. Tamam, dans le Coran. Exemple à cela, le jugement de la zakat, al-fitra, al-fitra. Tamam, zakat al-fitra, ceux qui ne savent pas ce qu'est zakat al-fitra, c'est l'aumône à la fin du ramadan. Tamam, on doit donner cette aumône en denrées alimentaires. C'est la sunna. Fa'an Abdullahi ou fa'an Abdillahi ibn Omar, radiallahu anhuma, قال فرض أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر. Le messager d'Allah, regardez, alayhi salatu wassalam, a prescrit dans le sens obligatoire la zakat al-fitr d'un sa', un sa' de date. Le sa', c'est la donnée, si vous préférez, de mesure, de poids prophétique. Tamam. Ou sa'an min ash-sha'ir ou ala 'abdun wa harri wa dhakar al-untha was-saghir al-kabir min al-muslimin amar biha an tu'adda qabla al-khuruj an-nas ila as-salat akhrajahu al-bukhari. Donc en fait ici on nous dit que la sunna, elle est même venue donner le détail de la zakat. Ce détail qui est dans le Coran général, et la sunna, elle est venue nous donner un détail. Et on nous a mentionné ici, même jusqu'au détail de la mensuration de la, du poids, si vous voulez, qu'on doit donner pour la zakat. Tamam. Mas'ala. هل يعود الاجتهاد مصدارا من مصادر التشريع في هذا العصر؟ الاجتهاد في هذا العصر لم يكن مصدرا مستقلا من مصادر التشريع لأنه على نوعان. أول الاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو إن كان فيما يتعلق بالأحكام الشريعة فهو وحي ويكون من السنة وإن كان من أمور دنيوية كاجتهاد. Alors ici, le sheikh, hein, bon, c'est de la faïda. Ce qu'on pas fait d'usul fiqh, ça va être nouveau pour eux. Mais bon, comme on en parle, et ben comme ils en parlent, et ben on va en parler. Mais il ne faut pas focaliser dessus pour ceux qui n'ont pas compris. Non. Alors, on nous dit, question ici. Est-ce que le al-ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation du savant, al-ijtihad, l'effort d'interprétation est une source parmi les sources légiférées à notre époque? Ici, le cheikh, il nous pose la question dans notre manuel, dans notre support, notre livre, il nous pose la question. Question, est-ce que l'ijtihad, donc l'effort d'interprétation du savant, est une source parmi les sources de la législation à notre époque? Donc, des sources au même... Eh bien, si vous voulez répondre, répondez, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, première réponse, la réponse est non. L'ijtihad n'est pas, oui, mais avec des preuves solides. Alors, il y a une sœur, elle a répondu non. Il y en a une autre, elle a répondu avec des preuves solides. Il y en a une autre, elle a répondu... alors, il y a un frère, il a répondu. Pouvez-vous répéter, Mohamed, Tayyib, Mohamed, est-ce que al-ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation des que font les mujtahidines, hein, les grands savants, qui ont le niveau, c'est considéré comme une source masdar al-tashri'a, comme une source de législation à notre époque, comme le Coran, la Sunna. Alors, on a une sœur, elle nous dit oui. On en a une autre, elle nous dit oui. On va trancher tout ça à la fin. On regarde les frères. Non, c'est Al-Ijmar qui est une preuve plutôt. Non. On va répondre, Ilyas, on va répondre, hein, Inch'Allah. Ça dépend s'il est tout seul ou si c'est tous les savants de son époque. Masha'Allah, c'est un jugement. Si le savant fait un effort d'interprétation et qu'il ajuste, il a deux récompenses. S'il fait un effort et qu'il a tort, alors il a une seule récompense. Qu'il y a des avis dans les différents madhhabs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cela nous montre que ce peut se tromper, donc cela n'est pas une preuve. Taïb, on va répondre. On va répondre. Tamam. Alors, la réponse, al-ijtihad fi hada al-asr. Alors, on nous dit, al-ijtihad, l'effort d'interprétation à notre époque, à cette époque, n'est pas un masdar, une source qui est indépendante des sources comme le Coran et la Sunna. Car, écoutez bien, le ijtihad, on nous dit, il est de deux genres. Pourquoi ? Le ijtihad n'est pas considéré comme une source indépendante du Kitab wa Sunna. On nous dit parce qu'il est de deux genres, le ijtihad. Le premier genre, donc je vous avais dit, il y en a qui ont eu bon, mais je vous avais dit que c'était une question qui tient d'ordre, on ne l'a pas fait, ça tient du usul fiqh, etc. Parce que le ijtihad, il est de deux formes, de deux genres. Écoutez bien, ça pourra ressortir. Al-ijtihad, vous avez l'ijtihad, l'effort d'interprétation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le premier ijtihad. Hein? Et même s'il est en rapport avec les jugements de la législation, ce ijtihad du prophète, le prophète, il a fait des ijtihad, le prophète. Mais la différence, c'est que le ijtihad du prophète, il est considéré comme une révélation. Et le ijtihad du prophète, il fait partie de la sunna. Donc, cette première catégorie, oui. Ce ijtihad-là, celui du prophète, oui. Mais, وَإِنْ كَانَ فِي أُمُرُ دُنْيَاوِيَا كَيْجْتِهَادِهِ فِي تَرْكَ التَّأْبِيرِ نَخَرْ فَهَذَا لَيَعُونَ مِتَّشَرْ. Attention, on nous dit, par contre, concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est un ijtihad qui concerne les choses de la vie mondaine, alors là, il n'est pas considéré comme un ijtihad dans la législation. D'accord ? Les choses de la vie mondaine, là, on ne considérera pas que c'est un ijtihad dans la législation. Alors, la deuxième forme d'ijtihad maintenant, qu'on nous mentionne ici. Donc, je vous avais dit, hein, on va quand même, ce qu'on est en train d'expliquer, on va quand même le mentionner, mais ça risque d'être technique pour certains élèves. N'en tenez pas compte, c'est quelque chose qui est un petit peu niveau intermédiaire. Donc, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas une darora, un cas de nécessité ou une obligation que vous compreniez ça. On le verra plus tard quand vous aurez un meilleur niveau. Plutôt un niveau plus élevé. Donc, la deuxième forme de ijtihad. Mais par contre, pour les étudiants, ceux qui en veulent, ceux qui notent tout, ils sont à l'affût et des fawaïd, etc. Là, pour eux, c'est bien. C'est bien de rentrer dans les détails, les massaïds, de savoir qu'il y a deux formes d'ijtihad. Il y a celui du prophète, as-salatu wassalam, qui fait partie de la législation. Et sauf dans les questions qui ne sont pas religieuses, les questions de la vie mondaine. Et il y a le deuxième ijtihad. Écoutez bien. La deuxième forme de ijtihad, donc le ijtihad, je répète, c'est l'effort d'interprétation. On a le ijtihad des sahaba, des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, pendant leur vie, au cours de leur vie, ils ont fait des efforts d'interprétation. Fahada, excusez-moi, au cours de la vie du prophète. Ijtihad al-sahaba, radiallahu anhum, fi hayatihi. Donc, les efforts d'interprétation des compagnons lorsque le prophète était vivant. فَهَذَا إِنْ أَقَرَّهُ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مِنَ السُنَّةِ. Alors, retenez bien, si le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a agréé, accepté un ijtihad d'un compagnon pendant qu'il était vivant, eh bien, ce ijtihad, il fait partie de la sunna, celle qu'on a vue précédemment, la sunna approuvée. Ça veut dire, le prophète, il a approuvé. Tayyib, on nous donne un exemple. وإن لم يقره فليس من الشريعة. تمام. Alors on nous donne un exemple. Un exemple de cette deuxième de ce deuxième genre de ijtihad. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il a accepté le ijtihad de Omar ibn As رضي الله عنه. Le prophète de son vivant عليه الصلاة والسلام il a accepté, il a approuvé un ijtihad, un effort d'interprétation d'un compagnon qui s'appelle Amr ibn As, radiallahu anhu, concernant le tayammum. Le tayammum, c'est les ablutions sèches avec une pierre de la terre, ou selon certains savants, même un mur quelconque. Quelconque. C'est-à-dire le ijtihad qu'avait fait le compagnon de faire le tayammum lorsqu'une personne était en janaba. Donc, c'est-à-dire qu'il était en état d'impureté majeure, alors que c'était une nuit où il faisait très froid et il avait peur de que cela lui cause du tort de faire le roussl, c'est-à-dire le grand lavage. Et le prophète, wa in lam yaqarrahu falaysa min ash-shari'a. Inch'Allah ta'ala, si vous avez il reste 5 minutes. Je vous laisse, puisqu'après on passe à un autre sujet. Toujours dans la sunna, on passe après à un autre sujet, donc on peut s'arrêter ici. Je vous laisse 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes pour des questions. Inch'Allah ta'ala. Alors, non, s'il ne se base sur aucun texte légiféré. Oui, ça c'est une question précédente. Et s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah ta'ala, je donne rendez-vous à ceux du cours de Al-Aqida, Inch'Allah ta'ala, dans une... je n'ai pas bien entendu la deuxième forme d'interprétation. La deuxième forme d'interprétation, c'est... Na'am akhi, ma fi ashkalan bay. La deuxième forme d'interprétation, c'est le ijtihad des compagnons pendant que le prophète, alayhi salatu wassalam, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un compagnon, par exemple, qui a fait un ijtihad, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a accepté ce ijtihad. Alors, ce ijtihad, il fera partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'il l'a accepté. Donc là, dans ce contexte, on peut dire que oui, le ijtihad, il est accepté. Mais, alors, ceux qui ont répondu « oui, le ijtihad, il est accepté », ils avaient bon, parce que c'est pas toutes les formes, mais cette forme-là, elle est acceptée, et comme la forme du prophète et la forme des compagnons acceptée par le prophète, mais il y a d'autres formes d'ijtihad qui ne sont pas acceptées, donc ceux qui ont dit « non », eh ben ils avaient bon aussi. Après, il faut être capable de détailler, on vous a fait le détail, on vous a fait le détail. Il y a un frère qui est en train d'écrire, donc j'attends. Avant de vous donner rendez-vous. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu dans les deux groupes. On a commencé à faire la lecture des metnes. On va vous faire la lecture audio des metnes enseignés à l'Institut. Inch'Allah ta'ala, il y aura al-wajibat al-mutahattimat. On va le faire en audio. On va. Tous les metnes, on va essayer de les faire. Tous les metnes en arabe. On va essayer de les faire. Donc, pas dans le soulfiq ou le fiqh, parce que ce ne sont pas des metnes, des moutounes. Ce ne sont pas des moutounes. Mais là où ce sont des moutounes, on va essayer de vous les faire. Comme ça, ceux qui veulent progresser en arabe, apprendre les moutounes, Inch'Allah ta'ala, et ben voilà, ça vous fera une occasion de. Afwan, pardon, en plus. Concernant. Ah, du coup, ma question n'a pas besoin, barakallahu fikum, car ça a répondu tout à fait. ce que vous venez de dire. Wafikum Baraka, tout à fait. Ça répond donc deux ijtihad, un prophète, deux compagnons. Tout à fait. Et attention, attention, le ijtihad du prophète où c'est que dans la dunya, c'est pas un ijtihad dans la législation. Celui-là, on ne prend pas compte. Et ceux des savants. Alors, est-ce qu'on pourra faire sa lecture dans un an si entre-temps on apprend l'arabe? Bien sûr, le metn, Inch'Allah, ça va rester, on ne va pas les enlever. C'est pour vous. Et Inch'Allah ta'ala, si vous restez, même si vous ne restez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le. Mais personnel. Personnel, ça c'est pas quelque chose, de toute façon tout ce qui est à l'institut, c'est pas public, faut pas partager, faut pas, tout ce qui est à l'institut, non, il ne faut pas partager, c'est d'ordre du privé, et ça c'est légiféré, c'est permis, hein. C'est permis, il y a des savants qui donnent des cours privés, moi j'ai assisté à des cours, on appelle ça durus khas, à des cours privés avec des savants, tous les autres gens n'ont pas le droit d'assister, c'est privé. Des étudiants également au centre d'études, ils donnaient des cours privés. Moi, ça m'est arrivé de donner des cours privés et c'est que pour ceux qui doivent que j'ai accepté dans ce cours. Donc là, l'institut, c'est aussi d'ordre privé. Si vous préférez, c'est public, tout le monde peut venir, mais à l'intérieur, c'est privé. C'est, voilà. Alors, est-ce que nous avons... une question d'un frère, Tamam, une question qui est à la fois du fiqh et du comportement, et je me suis toujours posé cette question, mais ça avait l'air un peu tabou ou irrespectueux lorsque j'en parlais autour de moi pour comprendre. Si un savant donne une interdiction ou une autorisation dans une fatwa, sans nous donner de preuves, mais simplement un refus autorisation, doit-on obligatoirement prendre la chose et l'appliquer sans chercher à comprendre pourquoi et demander la preuve, est-ce un mauvais comportement? Je crois que vous avez cité une fois, ou peut-être que je confonds, Cheikh Al-Albani qui avait dit « Si une personne lui ayant demandé un dalil qu'il n'avait pas à lui donner de preuves, Wallahu a'lam, non, pas du tout. » Un peu long, c'était « Non, pas de souci. C'est une bonne question et c'est pas long du tout. » Alors, il y a deux questions. On va répondre d'abord à celle de Ilyes et ensuite, il y a une question que j'ai vue défiler, elle s'est enregistrée dans ma tête, donc je vais y répondre. Je la vois plus là, je sais plus où elle est, mais alhamdoulilah, je l'ai enregistrée quand je l'ai vue. La question du frère, bismillahirrahmanirrahim. Non, en fait, les savants, ils ont obligation de donner le dalil. Et c'est pas que les savants. L'étudiant, qui vous voulez, vous lui posez une question, il a obligation, mais attention, il a obligation de vous donner le dalil si vous le demandez. Si vous le demandez pas, lui, le savant, il va se dire peut-être il va pas le comprendre le dalil, c'est un ami qui me téléphone, moi je sais pas, donc si vous lui demandez pas le dalil, il va vous donner le hukm, non c'est pas permis, il faut plutôt faire ça parce que ça c'est pas permis, mais si vous lui demandez ma'ad dalil shir barakallahu fikum, on voudrait la preuve shir barakallahu fikum, là il a obligation de vous la donner la preuve. C'est une obligation, il doit vous donner la preuve. Mais si vous ne demandez pas, il n'est pas obligé de vous la donner. Parce que vous ne l'avez pas demandé. Même, c'est pour ça que la plupart du temps, ne vous inquiétez pas. Normalement, on ne parle même pas d'un savant. Mais un savant ou un étudiant, il est censé, quand il vous répond, avoir le dalil dans sa tête. Sinon, il vous répond comment? Avec sa passion, il invente ou il a entendu des choses? Non. En même temps, la réponse qu'il va vous donner, elle doit être basée sur du ilm, min kitabi wa sunnah. Donc forcément, il a un dalil. La réponse qu'il vous donne, elle est basée sur un dalil. Lui, il a le dalil. C'est à vous de le demander. L'obligation, c'est quand vous allez lui demander, là, c'est obligé qu'il vous le donne. Mais sinon, si vous ne demandez pas, lui, il n'est pas censé savoir, parce que la plupart des gens, ils ne sont pas aptes à comprendre le dalil. Ah, parce qu'il faudra leur expliquer des règles de usulul fiqh, des règles, etc., des hadiths, peut-être ils ne vont pas les comprendre, etc. Donc c'est mieux de leur dire, oui, tu as le droit de faire ça, non, tu n'as pas le droit, c'est plus simple. Il y avait une question, c'est est-ce que le ijtihad des ulama, il est accepté? Oui, le ijtihad des savants, il est accepté. Le ijtihad des savants, il est accepté, naham. Naam, pour la personne qui avait posé cette question. Donc, Inch'Allah, Ta'ala, je vous retrouve, Inch'Allah. Donc, normalement, il fait partie de quelle catégorie, Mu'allim? Allahu A'lam. Allahu A'lam. De quoi, le ijtihad des savants? Allahu, le ijtihad des savants? Allahu A'lam. Je ne l'ai pas ici en tête, le ijtihad des savants, en tout cas, je sais qu'il est accepté. Il faut que je revérifie parce qu'il y a des divergences concernant les ijtihad, concernant les savants. Il y a des divergences. Wafiq barakallah akhi Ilyas. Subhanallah, on est là pour ça. Al-khair, inshallah, mashallah, barakallah akhi wa iyyakum. Comme quoi, c'est ce qu'on avait dit au début. C'est pour ça que c'est bien l'institut. On avait dit au début que les étudiants auront eu plus de proximité avec l'enseignant, ce qui fait que il y a des gens qui avaient des questions qui leur trottent depuis des années, et ben voilà, à l'institut, si on peut, mais des questions ilmi scientifiques. Moi, j'ai aucun souci avec les questions scientifiques. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas pour rabâcher ou vous casser la tête ou quoi que ce soit. Par contre, les questions mariage, divorce, problème, tout ça, non. Ça, je ne préfère plus y répondre pour éviter. Comme je vous ai dit, concernant les savants, je vais regarder c'est dans quelle catégorie. Mais on peut considérer, oui, que c'est une catégorie en plus. Maintenant, pour dire c'est la troisième, la quatrième ou ceci, je ne m'avance pas. J'écris cela pour être sûr que j'ai bien compris, Inch'Allah. Oui, vous avez compris. Si on ramène les savants, là, si on parle du ijtihad des savants, on aurait pu dire que, troisième catégorie, le ijtihad des savants. Mais ici, ça n'est pas mentionné. Donc, ne vous inquiétez pas, vous recevrez, wa iyyakum, vous recevrez, Inch'Allah, Ta'ala, votre réponse en temps et en heure, Inch'Allah, Ta'ala. Wa hayyakum Allah, wa subhanaka Allahumma bihamdik, subhanaka Allahumma wa ma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.